Bon, bah écoutez, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, bah merci à TAC 15e arrondissement de m'inviter à débattre avec vous de ce livre, de ce petit livre. Oui, on peut dire ceci, Gilles, c'est parfaitement assumé par les éditions Sileps. Les éditions Sileps, qui sont un alter éditeur, cherchent vraiment à produire du livre abordable en matière de prix et de contenu. Donc c'est très très clairement assumé. Voilà. Alors, un petit mot sur le pourquoi de ce livre. Je suis journaliste, j'ai été journaliste au mensuel Regard pendant 5 ans et j'ai tout particulièrement couvert toutes, ça serait bien prétentieux, mais les plus emblématiques, on va dire, reprises d'entreprises par les salariés en coopérative, un mouvement qui s'est intensifié depuis l'automne 2010 et dont on va reparler. Et plutôt que de faire, j'irais au fil de 4 ans, 5 ans, vous vous en doutez, plutôt que de faire simplement du reportage, j'ai commencé à partir, j'irais, du reportage, de confrontations concrètes avec les acteurs de ces reprises, à développer, je dirais, des positions politique, des propositions politiques qui se terminent en propositions politiques. Donc ce livre est à la fois, je dirais, une partie reportage et une partie, bien entendu, proposition politique de transformation. Alors, je vais commencer par un point d'actualité. En fait, on est marqué en ce moment par les batailles contre la loi travail, il y a le phénomène des nuits debout. Et puis, j'ai enregistré l'autre jour une émission qui se déroule fort tard, qui est « On n'est pas couché » avec Ruquier, qui invitait deux chroniqueurs, plus François Ruffin, et puis le patron du MEDEF, Pierre Gattaz. Bon, pour être très très clair, l'auditoire n'était pas favorable à Pierre Gattaz. Hein. C'est vrai que François Ruffin aime particulièrement un patron, hein, qui est Bernard Arnault, mais les autres, j'ai pas l'impression qu'il les aime. Bon. Et donc un public relativement hostile, et je me suis posé la question, j'ai vu ce Gattaz arriver avec son air courbé, son petit sourire narquois, et puis il a tenu la longueur pendant quasiment une heure. Et très franchement, il m'a impressionné. Il m'a impressionné parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a dit pendant une heure? Il a dit ceci, il a dit grosso modo en négatif, il a dit « mais vous, vous n'êtes rien. Ceux qui font les emplois, ce sont les employeurs, je les rencontre. » Et aujourd'hui, alors il a été bien entendu interpellé sur le fait que pendant quelques mois, il se baladait, vous vous souvenez, oui, avec un petit pins, 1 million d'emplois à la suite du crédit d'impôt compétitivité emploi pour approuver la mesure, et il s'engageait à 1 million d'emplois, puis il nous dit là, mais non, je ne me suis jamais engagé, de toute façon, ce sont les patrons qui décident, et aujourd'hui, si vous voulez de l'emploi, il faut qu'il y ait la loi de travail, est-ce que vous engagez, monsieur Gattaz? Ah non, pas du tout, de toute façon, c'est le patronat qui au final décide. Et il est reparti comme il est rentré avec son petit air, j'irais, narquois, sous les huées d'ailleurs, hein, c'est ça qui est formidable, il ne s'est jamais décontenancé de ça, et j'ai été très très frappé de ceci, et ceci, oui, m'amène en fait à quoi? À dire que finalement on va parler aujourd'hui des coopératives, et que c'est justement cette question de l'emploi qui était posée dans toutes ces questions de reprise d'entreprise en coopérative à partir, comme je vous l'ai dit, de l'automne 2010. Alors, ça a commencé comment? Ben, ça a commencé, il faut le resituer, je dirais, la période. Ça commence dans une période de crise économique forte, aiguë, qui est celle de 2009, qui se fait suite à la crise boursière de 2007-2008. Dans lequel on a une multitude de plans sociaux, de fermetures d'entreprises qui se déroulent, avec dans un premier temps en 2009 des batailles très très défensives sur le terrain des indemnités. On peut dire que beaucoup se sont battus, on pense au Molex, hein, entre autres, pour obtenir le maximum d'indemnités. Puis il y a un tournant qui se fait en 2010, à l'automne 2010, avec deux conflits emblématiques, celui des Cifrance et celui des Fralib, qui pour une fois disent « mais nous on ne veut pas d'indemnité, c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est conserver notre outil industriel, conserver l'entreprise. Et en plus de ceci, nous pensons que c'est par la forme coopérative, dans la réalité les Fralib le diront un petit peu plus tard, mais les Cifrance c'était immédiat, que nous sommes sûrs en contrôlant notre emploi que demain nous conserverons notre emploi. » Je ne vais pas chroniquer ces deux luttes, de toute façon j'en parle dans le livre. Bon, il y a deux issues relativement différentes, hein, dans le cas de Cifrance et dans le cas de Fralib. Cifrance, leur plan n'a pas été retenu. Je crois que ça, il faut le dire et redire par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui. Leur plan initial de continuité de l'entreprise avec le maintien des contrats de travail n'a pas été retenu. Contre leur avis, on a liquidé l'entreprise, appuyé par Nicolas Sarkozy à l'époque. Ils sont repartis dans un entre-deux avec Eurotunnel, dans une espèce de partenariat. Et c'est ce partenariat qui leur a été un petit peu fatal à cet été 2015, dans la mesure où les autorités de la concurrence britannique ont torpillé ce partenariat Eurotunnel-Seafrance, alors qu'ils regagnaient des parts de marché et qu'ils rebondissaient très très bien. En ce qui concerne les Fralib, vous le savez, ils ont gagné après 1336 jours de lutte, très probablement, vous le savez. Aujourd'hui, ils sont dans une phase, je dirais, de démarrage, hein, qui n'est pas gagnée, loin de là. Vous avez pu voir qu'on vous a distribué un petit papier dans lequel on veut lancer, alors quand je dis « on », c'est l'association Autogestion et d'autres, on veut lancer un mouvement citoyen aux entreprises de salariés, notamment les Fralib, donc la Scopti, aujourd'hui on l'appelle la Scopti, les produits 1336. Ils ont un contrat de sous-traitance qui les aide pendant un an et c'est le moment qu'il faut mettre à profit pour lancer vraiment la gamme. Et c'est pour ça que nous serons présents à Nuit Debout ce week-end à nouveau avec des T1336, faire connaître et mobiliser pour que le 21 mai soit un point de départ en région parisienne de ce mouvement. Mais il n'y a évidemment pas que les Fralib et les Seafrance. En réalité, dans la foulée, on a eu toute une série de conflits qui se sont retrouvés un petit peu dans des configurations très différentes les unes des autres. On a eu les Glace Pilpa à Carcassonne où finalement ça ressemble pas mal en termes de conflit à celui des Fralib. Ceci qu'il a été beaucoup beaucoup plus court. On a eu reprises de type la librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand qui faisait partie du groupe Chapitre et ça marche très 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 bien. Il y a un magnifique reportage film qui a été réalisé par une équipe de jeunes. Essayez de regarder ça sur Association Autogestion, on l'a chroniqué et la chute du film est extraordinaire parce que j'essaye de répondre à votre question. Vous avez peut-être une attache avec Clermont-Ferrand et c'est la raison. Au bout de un an, ils ont redémarré, ils ont créé 4 emplois supplémentaires. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'on montre, et ça on va en parler, c'est un nouveau rapport avec le travail. Il ne s'agit plus, je dirais, de faire de la librairie, mais il s'agit de faire un lieu culturel dans Clermont-Ferrand avec 400 événements par an. Donc je trouve ça assez fantastique. C'est autrement plus enthousiasmant comme perspective que d'être leader sur son segment de marché, comme le groupe Chapitre, qui était leur propriétaire, le voulait. Je referme la parenthèse. Mais vous avez, puisqu'on est en Auvergne, les dentelles élastiques Fontanille dans la Haute-Loire qui sont reparties, vous savez, des hauts de bas, hein, essentiellement, et du médical. Et puis des entreprises qui, parfois, les unes les autres, n'ont pas grand-chose à voir. Nous, dans notre région, on a Hélio Corbeil, de la Hélio Gravure, où ils sont partis. On a alors une entreprise de haute technologie, par exemple, la SET en Haute-Savoie. Alors ça, c'est de la très haute technologie, ce sont des microchips, c'est des machines qui collent du microchip au 0,5 micron près. Donc une technologie exclusive qui n'existe qu'ici et qu'un groupe américano-singapourien voulait prendre pour délocaliser ailleurs. Heureusement, ils ont gagné et ils ont réussi. Et on pourrait en citer plein d'autres et je pense que vous en avez peut-être vous-même d'autres en tête. Voilà. Et en fait, j'ai toutes ces reprises. Alors bien entendu, elles ne seront pas forcément toutes... couronnée de succès. On a parlé des Seafrance, etc. Je veux dire, surtout qu'on se dise bien une chose, la SCOP, alors SCOP, Société Coopérative et Participative, qu'est-ce que c'est ? C'est une coopérative dans laquelle les travailleurs, les salariés sont majoritaires. À la différence d'autres coopératives, vous savez qu'il existe différentes familles de coopératives, dont des coopératives d'usagers. Alors on peut citer là-dedans les anciennes coop, les magasins coop qu'on avait autrefois dans les années 50-60. On peut citer les coopératives bancaires. Aujourd'hui, les banques populaires, etc. Puis on peut aussi citer la coopération agricole ou même des coopératives de commerçants, comme c'est le cas par exemple de Leclerc et tout. Non, là je vous parle de SCOP, que c'était coopérative et participative, les anciennes sociétés coopératives ouvrières de production, auxquelles d'ailleurs on peut mettre les petites cousines qui sont les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont des coopératives dans lesquelles on associe et les salariés et les usagers et toujours une troisième partie prenante variable, et éventuellement on peut en avoir beaucoup d'autres. Bon, voilà. Donc, ces coopératives, c'est tout sauf quelque chose qui marche à tous les coups. Mais néanmoins, je crois que ce qui est intéressant dans ces coopératives, c'est que je dirais à un niveau microéconomique, et surtout je précise bien un niveau microéconomique, on a la fin d'un conflit de classe, très clairement, c'est-à-dire que il n'y a plus une notion de patron propriétaire, puisque tout le monde est propriétaire, donc j'ai bien dit à un niveau microéconomique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces entreprises, eh bien, statistiquement, alors on a souvent l'idée, ouais, les SCOP, c'est des petits trucs dans des coins, c'est pas sérieux, c'est... Non. On casse cette idée, s'il vous plaît. Il faut savoir que, et ça sont des statistiques INSEE, si nous créions ce soir une SCOP, nous aurions 3 chances sur 4 dans 3 ans d'être toujours en vie. Si nous avions créé une société de capitaux, ça serait 2 sur 3. C'est pas la même chose. Vous avez aujourd'hui 22% des SCOP qui ont plus de 20 ans d'existence. Alors que c'est 18% des entreprises, tout confondues, qui ont plus de 20 ans d'existence. Pourriez me dire, mais ça traduit un mouvement vieillissant. Mais pas du tout. C'est un mouvement qui est en croissance en ce moment, fort, et toutes SCOP confondues, pas seulement les reprises d'entreprises, création d'entreprises, etc. Je vais vous citer juste un chiffre qui est exceptionnel, je vous le reconnais, c'est le chiffre de 2014, où la progression des effectifs salariés était de 12% dans le mouvement SCOP-SIC confondu. Une année exceptionnelle. Toutes les années ne sont pas comme ça, mais la tendance, de toute façon, sur, je dirais, 5 ans, 10 ans, est infiniment plus positive en création d'emplois, toute proportion gardée, que le reste de l'économie française. Donc ça, c'est une chose importante. Un autre idée reçue qu'il faut, à mon sens, définitivement s'enlever de la tête, c'est l'idée, ce sont des petites entreprises. Là encore, c'est faux. La moyenne de salariés par SCOP, elle est de 20. La moyenne des entreprises, tout confondu en France, c'est de 5-6 personnes. Je fais 5-6 à cause du statut souvent du travailleur indépendant dans les entreprises unipersonnelles. Donc 5-6, on est quelque part par là. Donc c'est pas la même chose. Donc en termes de micro-entreprises, il y a comparativement moins de SCOP que d'entreprises traditionnelles. Par contre, là où les SCOP sont très présentes, c'est vrai, c'est sur le segment des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire le segment des 10 à 250 salariés. Là, les SCOP sont très présentes, ça c'est vrai. Mais sur les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, ce qu'on appelle les ETI dans la classification de l'INSEE, donc de 250 à 5000, il faut savoir que vous avez en proportion autant d'emplois dans les SCOP que sur ce segment d'entreprise que dans le reste des entreprises. Vous avez des SCOP qui font 2000-2500 personnes. Je pense à Acom en Normandie, qui est le leader européen de la fibre optique. C'est une SCOP. Je pense à SCOP Elec dans la région de Toulouse et autres. Et il n'y a qu'un seul segment où, c'est vrai, nous n'avons pas de SCOP en France. C'est le segment des grandes entreprises. Mais là, je vais me tourner, c'est surtout pas que c'est, il se trouve que c'est comme ça, mais là, on va tourner nos regards de l'autre côté des Pyrénées, on va aller se promener au Pays Basque, où nous avons un groupe coopératif qui s'appelle Mondragon. Je vois des gens faire la grimace, mais on en parlera bien volontiers. On peut en parler en positif comme en négatif aussi, et il faut marier les deux. De toute façon, dans les SCOP, dans les coopératives de travail, rien n'est... vous tenir un discours qui est tout sauf un discours de bisounours. Maintenant, Mondragon, quoi qu'il en soit, c'est un groupe coopératif qui comporte 70 000 personnes et qui regroupe une centaine de coopératives de travail qui, elles, se sont fédérées pour constituer un groupe très original dans lequel, c'est exactement l'inverse de nos groupes cotés en bourse. Dans un groupe coté en bourse, vous avez la tête qui est cotée en bourse, qui est une holding qui détient des filiales aux ordres. Là, vous avez une autre construction dans laquelle vous avez des coopératives de travail qui ont créé des coopératives secondaires et ont créé leur structure tête de groupe. Donc un tout autre modèle. Et je dirais que de ce point de vue, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, encore un autre aspect sur lequel, il me semble, les coopératives sont relativement intéressantes. On a parlé de l'aspect fin du conflit de classe. Il y a aussi l'aspect désaliénation du travail. Ça, c'est, à mon avis, fondamental à comprendre. À partir du moment où on reprend le contrôle de son travail, ben, fatalement, on s'interroge sur la finalité de son travail. Je ne crois pas personnellement à l'homo economicus des néolibéraux qui veut que l'individu fasse toujours des choix pour maximiser son profit. Je ne crois pas fondamentalement à ça. Bien sûr qu'on cherche à maximiser à un moment donné notre profit. Je veux dire, on reste... je ne vais pas non plus faire l'inverse, on n'est pas bisounours. Mais en même temps, il n'y a pas que ça, on n'a pas que ça comme ressort dans notre vie. Et quand on reprend le contrôle de son travail, on s'interroge sur les façons de travailler. Et j'ai presque toujours trouvé du nouveau dans ces reprises d'entreprises en scope en termes de questionnement du travail qu'il y avait. Alors évidemment, on cite toujours l'exemple des ex-Fralib, mais on a parlé là tout d'un coup là, de la librairie Les Volcans. Je crois que c'est un magnifique exemple et il est tombé comme ça. Mais souvent, je prends aussi en exemple les Fralib ou les ex-Pipa de Carcassonne qui ont lancé les glaces La Belle Haute. Ben, les glaces La Belle Haute, ce sont des glaces qui sont faites exclusivement avec du lait entier. Il faut savoir qu'avant, ils faisaient des trucs avec du lait en poudre. Qu'avec des produits naturels, si possible de proximité, donc les châtaignes des Cévennes, les fruits des Pyrénées-Orientales, on est à Carcassonne, etc. Et dans une logique, je dirais, locale. Ils ont surtout cherché à vendre localement sur le sud. C'est pour ça qu'il est relativement difficile de trouver des glaces La Belle Aude en région parisienne, je vous le confirme. Par contre, même chose sur l'été. Ben, l'été, c'est quand même assez extraordinaire. C'est le refus, pareil, des arômes de synthèse, très clairement. Le retour à des produits naturels et même la relance, par exemple, de filières d'approvisionnement qui avaient été interrompues autrefois par le groupe Unilever, et je pense au tilleul des Baronnies dans la Drôme. Honnêtement, j'ai goûté ce tilleul des Baronnies, j'espère qu'on en aura à la Place de la République, normalement oui, Place de la République ce week-end, il est exceptionnel, même par rapport à des tilleuls qu'on trouve sur, vous savez, les Damam Frères, les... Bon, bref, j'arrête de faire de la publicité, ça devient malsain. Donc, je m'arrête. Mais tout ça pour dire, si vous voulez, il y a un phénomène de désaliénation, d'interrogation sur son travail que je trouve passionnant dans ces reprises d'entreprise par rapport à ce que nous faisions avant. Alors, tout ça me ramène quand même au sujet sur lequel on s'interroge, c'est que toutes ces reprises en coopérative ont été faites pour la question de l'emploi, pas du tout pour une question de désaliénation, de fin de l'exploitation ou quoi que ce soit. Il y a... Surtout, ne pensons absolument pas qu'il s'agit d'un mouvement politisé. Les Fralib étaient très politisés, c'est vrai, mais ça n'est pas vrai forcément ailleurs. Même chose, souvent, quand on parle des entreprises récupérées argentines, on imagine, quand on voit le film de Naomi Klein, qui s'appelait... j'ai un gros trou, mais... le film de Naomi Klein... Pardon ?
Tout peut changer ?
Non.
La stratégie du choc.
Non, c'est un bouquin ça. The Take. Voilà, The Take. Quand on voit le film de The Take, on a un petit peu l'impression que c'est la révolution qui s'avance, etc. La réalité est beaucoup plus prosaïque. Hein. Ce sont des gens qui, dont le travail est perdu, dont le patron a littéralement trahi ce pourquoi il se levait tous les matins, et qui décident de reprendre leur entreprise dans une continuité. Ça, c'est relativement important. Continuité avec interrogation. Et là, la question que je me pose, dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire une situation de recul sociaux qu'on a depuis maintenant 30 ans, ça n'arrête pas. On enchaîne contre-réforme des retraites sur contre-réforme des retraites, avec repousser l'âge, alors qu'on est au chômage, il y a beaucoup de chômage. Là, on a vu ce qui s'est passé sur 5 ans en termes, c'est la fin... C'est le traitement des plans de sauvegarde de l'emploi qui maintenant se font d'une façon expéditive avec le dernier accord national interprofessionnel directement par l'administration. C'est immédiatement la casse du code du travail avec l'inversion de la hiérarchie des normes. Donc je rentre pas là-dedans puisque vous connaissez probablement tous ceci. Et la grande question que je me suis posée au travers de ces 4-5 années, c'est de me dire, mais pourquoi c'est toujours sur un mode défensif qu'on pense à la coopérative? Pourquoi c'est quand l'emploi il est menacé qu'on s'interroge à la coopérative? Pourquoi on ne voit pas une transformation coopérative généralisée comme issue à une reprise du progrès social. C'est un petit peu là-dessus. Et là, on arrive déjà sur une autre réflexion qui est la suivante. C'est que ça fait quand même maintenant des années, on va dire à peu près 15 années, que la gauche a un discours qui consiste à dire « Oh, ben, les actionnaires, ils ont des marges extraordinaires qui ont monté ces dernières années, et il y a du gras à moudre, comme disait quelqu'un à une époque, du gras, et on peut taper dedans et on pourrait relancer le progrès social. » Je vais citer une phrase de Larutqui dit à peu près la même chose dans un livre de 2008. Hein. Il dit ceci, il dit « Les chiffres de l'INSEE sont éloquents. En 25 ans, la part des salaires dans le PIB a baissé de 11%. 11 points de chute sur un PIB de 1 800 milliards, c'était en 2008, hein, aujourd'hui on est à 2 100 milliards à peu près. Ce sont cette année quelques 200 milliards d'euros qui vont rémunérer le capital, alors qu'ils iraient aux salariés si le marché du travail retrouvait l'équilibre de 1982. Alors, je passe les détails de cette affirmation. Comme quoi il prend le PIB dans son ensemble et pas du tout juste les sociétés financières. Il y a beaucoup de choses à critiquer dans cette phrase. Mais je dirais qu'elle traduit un peu l'idée sur laquelle la gauche radicale, je ne sais pas comment l'appeler, la gauche de gauche, la gauche du Parti Socialiste, se trouvait depuis des années. Et puis finalement, ce discours, il n'a pas tellement pris. Et il n'a pas tellement pris parce qu'en fait, est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'au fond de nous-mêmes, on y croit? Alors on va faire appel à des économistes. Je vais commencer d'abord par les post-keynésiens. Post-keynésiens, l'école de Cambridge, des économistes de gauche, hein, de l'après-guerre, qui refusent la synthèse néoclassique qui est proposée à partir des travaux de Keynes et qui veulent pousser les travaux de Keynes dans d'autres directions. Et ils disent ceci. Ils disent finalement, si jamais on déplace un euro de dividende vers un euro de salaire, c'est pas si mal que ça pour les possédants. C'est pas si mal que ça pour les possédants, parce que bien sûr, leur dividende va être tronqué tout de suite. Mais en réalité, comme ils vont le toucher en salaire, cet euro, ça c'est des salariés qui vont le toucher, eux ils vont le dépenser. Et donc il va y avoir une demande adressée aux entreprises, qui fait que les entreprises vont se mettre à investir, ce qui enclenche un cycle de croissance. Et ma foi, ceci est bénéfique pour tout le monde, et on s'y retrouve. Et quelque part, cette pensée des économistes post-keynésiens qui date des années 50, hein, elle s'est complètement vérifiée dans la période dite des 30 glorieuses. Je n'aime pas beaucoup ce terme de 30 glorieuses, mais c'est un terme qu'on emploie couramment. Et puis, quelque part, ce modèle, il s'est un petit peu brisé au milieu des années 70. Et on est parti sur autre chose. Et je vais faire appel maintenant à un deuxième économiste qui nous parle un petit peu d'investissement, d'emploi. C'est James Tobin. Oh, je suis sûr que tout le monde le connaît ici. Hein. James Tobin, donc je ne le présente pas, et il n'a pas fait que la proposition de taxation des financières. Il a aussi lancé le coefficient qu'il appelle, dans notre langue c'est malheureux, Q, le coefficient Q, dans lequel on a au numérateur, il place au numérateur la valeur marchande de l'investissement, et au dénominateur, la valeur de remplacement du capital, d'achat du capital. Schématiquement, vous pourriez mettre la valeur boursière, c'est ce qu'il fait lui dans ses travaux d'ailleurs, et la valeur comptable des entreprises dans la comptabilité d'il y a quelques années où on enregistrait les investissements à leur valeur d'achat, et qu'on dépréciait ensuite, mais qu'on ne revalorisait jamais. Et lui dit ceci, il dit « si le coefficient est supérieur à 1 », alors l'investissement est immédiatement valorisé, donc bah, je dirais ça va bien marcher et ils ont intérêt à investir. Et inversement, s'il est inférieur à 1, bah, ils n'ont pas intérêt à investir puisqu'il n'est pas valorisé. Alors évidemment, c'est schématique, ça ne marche pas toute entreprise confondue, il faut le comprendre comme un ensemble. Mais James Tobin nous a montré des courbes en son temps, quand il a sorti son truc, qui étaient assez frappantes, effectivement, d'un décalage entre un recul boursier et puis une chute des investissements à 6 mois d'écart. Et pour moi, l'élément le plus brillant de sa théorie, c'est l'année 2009. Regardez crise boursière en 2007-2008, on se prend je sais pas combien sur la bourse, et dans la foulée, c'est 6 mois, un an après, 2009, les entreprises qui licencient, qui désinvestissent et tout, et on appelle évidemment l'endettement des États, et vous connaissez la suite de l'affaire, pour prendre le relais. Et alors ça m'amène, si vous voulez, à la notion de valorisation des entreprises. C'est à ça que fait appel James Tobin dans son coefficient. Et valorisation des entreprises, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est les dividendes. Alors là, je vais parler barbare, mais on va quand même simplifier. La valeur d'un titre financier, on dit que c'est la valeur actualisée de ses flux financiers futurs. Donc la valeur d'une action, c'est ses futurs dividendes auxquels on va donner une valeur actuelle. Hein. Plus ils sont éloignés dans le temps, moins ils valent aujourd'hui. Non, normal. Et donc, plus les perspectives de dividendes d'une entreprise sont élevées, plus, ben, je dirais, la valorisation boursière de l'entreprise s'envolera. Voilà. Donc c'est un petit peu ça l'idée générale qui est posée dans le coefficient de James Tobin. Et c'est très intéressant de réinterpréter maintenant ceci en fonction... Alors j'ai volontairement fait un papier militant d'un côté, mais de l'autre côté, non. Il y a aussi un petit graphique, donc je vous invite à le regarder, et on va le regarder ensemble, l'évolution des dividendes, qui sont très très parlants. Vous avez la période 49-55, c'est une période dans laquelle on a très peu de capital, mais beaucoup de bras, il faut reconstruire le pays. Et là, très clairement, les possédants, ceux qui ont un peu de capital, ils y vont, et on distribue du capital, etc. Et puis ça monte jusqu'à 55. 55, c'est extraordinaire, c'est les grandes grèves. Vous en souvenez peut-être pas tous, mais même moi. Mais c'est les grandes grèves de 55. Et à partir de ce moment-là, on rentre sur une autre période dans laquelle le dividende baisse, et on rentre dans la période typiquement post-keynésienne. C'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, les actionnaires disent « Ok, on baisse le dividende » parce qu'il y a des conquêtes sociales qui se font à cette époque, hein, très très fortes. Mais sur le fond, c'est pas très grave pour eux parce qu'on est encore sur un régime de forte croissance. Et donc ces dividendes qu'on baisse, on sait qu'on les récupérera demain. Et puis il y a une cassure, et comme par hasard, la cassure, c'est 75-76, le lendemain de la crise pétrolière. 75-76, qu'est-ce que ça nous dit ? Enfin, 74, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit, attention, le régime de croissance sera plus tout à fait le même que celui que nous connaissions avant. Et là, on retrouve un retour, une hausse des dividendes sur cette période, qui sont d'ailleurs sans aucun rapport avec les profits. C'est-à-dire que la chute, je fais une parenthèse, la chute maximale des profits des entreprises, elles se situeront autour des années 80, 81, 82. Donc, en dépit des chutes des profits, on distribue du dividende de plus en plus pour rattraper un petit peu cette affaire. Et on monte en deux paliers. Alors, le premier palier pépère, on passe, vous voyez, de 2,5%. Alors, ce sont des dividendes que je rapporte à la valeur ajoutée brute des entreprises, des sociétés non financières. Excusez-moi, je ne l'ai pas précisé, mais comme je l'avais marqué, bon, voilà. Donc, exclusivement ce segment, hein, qui regroupe schématiquement 90-95% des entreprises, sociétés de capitaux. Et on a en fait une pente en deux trucs. On a une première pente de 2,5% à schématiquement 4,5% en 2000. Donc une pente douce. Ok, on reprend du terrain. 2000, rappelez-vous, la bulle boursière de l'Internet. On échafaudait des tas de théories sur un nouveau modèle de croissance, machin, bidule, et puis hop, ça tombe au lendemain de 2000. Et là, on part sur un nouveau régime où on remonte encore plus fort les dividendes. Et là, le moteur des dividendes, qu'est-ce que c'est ? C'est l'endettement. L'endettement des ménages. Alors, c'est évidemment le schéma des subprimes aux États-Unis. Mais il faut savoir qu'en France, sur cette période, l'endettement des ménages en crédit court terme, en crédit de consommation, a monté de 80%. Ce sont des statistiques INSEE. C'est vraiment la preuve qu'il y avait moins de salaires et que c'était compensé par de l'endettement. Et on sait que ce truc, ça marche pas toujours, qu'à un moment donné, ça se casse. Et là, vous avez le coup de 2009, qui est intéressant, où on voit que les dividendes repartent à la baisse. Et ça, peu de gens le disent. J'ai encore une fois, j'ai vu, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cette émission avec François Ruffin à la télé. Il est arrivé avec un panneau là-dessus. C'est à peu près le même schéma, hein, puisqu'il avait pris, lui, sur la base des salaires bruts, mais ça revient au même en termes de pente. Hein, c'est pas, il n'y a pas de différence fondamentale. Très curieusement, il est parti de là. Bon, c'est vrai, il n'était pas obligé de nous expliquer ça. Mais il s'est arrêté là. Et on ne voit pas la chute. C'est une petite anecdote que je vous donne qui doit penser à réfléchir. Et à partir de 2009, on est dans un système qui est véritablement en crise. C'est-à-dire que très sincèrement, les salariés résistent, même si on en prend pas mal en termes de... On résiste, on tient en salaire. Les dividendes ont baissé sur cette période. On a un petit coup en 2014 quand même, hein, comme quoi vous voyez, Hollande travaille bien. Quand même, on va voir ce que donne 2015. C'est bientôt qu'on a les statistiques 2015. Hein, ça va être au mois de mai, quelque chose comme ça. Donc on va voir s'il a bien travaillé. Mais si vous voulez, on est dans une situation de crise dans laquelle le patronat veut vraiment encore en envoyer de plus en plus pour restaurer ses dividendes dans un contexte où la croissance est décidément pas au rendez-vous. C'est-à-dire que on n'a jamais eu des taux de croissance aussi faibles encore que maintenant. Encore une fois, je ne suis nullement un apôtre de la croissance, croyez-le bien. Pour moi, la croissance est juste un paramètre de l'expansion de l'accumulation capitaliste et un baromètre indispensable pour les actionnaires pour comprendre où on se situe en termes macroéconomiques. Voilà. Donc, mon propos, il est de dire qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où, quelque part, l'idée d'un compromis de classe positif tel qu'il a pu se réaliser dans les Trente Glorieuses, il est très très loin derrière nous. Et il n'y en a plus, il n'y en a plus vraiment de possibilités. Ça me ramène aujourd'hui au débat sur la loi El Khomri. On se bat aujourd'hui pour que surtout cette loi soit retoquée, qu'on gagne sur son retrait. Mais quelque part, on sait que la question du chômage n'est pas réglée en tant que telle. Et on est obligé... Alors évidemment, on entend toutes les recettes libérales sur la question du chômage qui ne marchent pas de toute façon. On le sait, on le voit depuis 5 ans, le chômage n'a jamais été aussi fort. Donc évidemment, il y a la voix Gattaz qui dit « on n'en fait jamais assez ». Il y a une autre voix qui dit « ça ne marche pas si bien que ça, parce qu'à force, ça va se tendre ». Et puis il y a aussi des voix qui commencent à émerger. Aujourd'hui, on voit que le thème de la réduction du temps de travail revient à l'agenda de la CGT. J'espère très sincèrement que le thème de l'abandon des contre-réformes des retraites pour revenir à 37,5 annuités va revenir sur le tapis, parce que là, c'est 1,8 million de personnes qui sortent du marché de l'emploi du jour au lendemain. Donc c'est, en termes de réduction du chômage, quelque chose qui est quand même vraiment intéressant, je veux dire. Et aujourd'hui, on voit qu'on nous tire au maximum, ça n'a plus de sens. Je crois que beaucoup de gens ont envie de partir à la retraite, pour être actifs d'ailleurs, sur autre chose. C'est pas... voilà. Et donc, mon propos, il est de dire que si jamais demain, un gouvernement progressiste arrivait aux affaires. Alors je sais que ça peut faire sourire dans notre pays, mais quand on regarde le monde, on s'aperçoit qu'il est très contradictoire. C'est-à-dire qu'on voit des Bernie Sanders monter aux États-Unis sur des thèmes incroyables. J'ai vu, lu dans Red Pepper, on parle du programme de Jeremy Corbyn, il y a des choses très amusantes dans le programme de Jeremy Corbyn en termes de socialisation et autres, qui mériteraient d'être vues. On sait qu'on a Podemos qui, lui, est sur un programme plutôt plan-plan social-démocrate keynésien, je veux dire, un mélange de revenus universel plus Piketty, pour faire bref. On sait qu'on en est là, mais je dirais, et on sait qu'en France, nous, le gouvernement progressiste, on ne le voit pas vraiment aujourd'hui, ça c'est vrai, c'est le moins qu'on puisse dire, mais imaginons qu'il soit là, la question posée est la suivante, c'est est-ce que ce gouvernement progressiste qui va hausser la part des salaires dans la valeur ajoutée, ne va pas provoquer une grève des investissements. Moi, c'est ça la question. C'est un petit peu la grève des investissements qui existe déjà. Lorsque Renault dit « Attention, vous acceptez les baisses de salaire et moi, la chaîne de production, ça ne sera pas en Slovénie, mais j'accepte de la maintenir ici en France », c'est déjà ça qui est posé. Lorsque Gattaz nous a fait tout son numéro l'autre jour pour nous dire « Il faut ça, mais de toute façon, c'est eux qui vont décider à la fin », c'est ça qu'il nous dit aujourd'hui. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est obligé de dire, si on réaugmente la part des salaires dans la valeur ajoutée pour venir à bout du chômage, pour toute une série de raisons, il faut en même temps amener des réformes de structure qui permettent aux salariés de s'en saisir de façon à prendre le relais des actionnaires. Les actionnaires sont défaillants, je ne vois pas d'autres solutions aujourd'hui politiques. Alors, la dernière partie du livre, en fait, porte sur des mesures proposées, qui sont des mesures soumises au débat. La première, c'est d'abord et avant toute chose des droits d'intervention des salariés dans les entreprises en termes d'investissement et en termes d'élaboration de contre-plans, c'est-à-dire qu'on soit déjà dans l'optique d'une SCOPE, quelque part, dans lequel les salariés sont en mesure de dire ben voilà ce que nous, nous aimerions pour notre entreprise et ce que nous aimerions faire en termes d'embauche, d'investissement et autres. Donc, ils s'expriment là-dedans. Avec la possibilité, bien entendu, de se faire financer ce genre de choses. Alors, comment ? Ben, je préconise dans le livre un fonds d'investissement salarial, la création d'un fonds d'investissement salarial par une cotisation à la charge du patronat sur les salaires, par exemple. Mais ça peut être autre chose. Et on n'a pas de... Mais je pense que cette formule est pas mal. Ce fonds-là salarial qui offrirait aux banques, j'ai bien dit aux banques, des lignes de crédit long terme, moyen, long terme, pour permettre aux banques de financer les projets que pourraient préconiser les salariés. On débattra sans doute de la question pourquoi les banques, pourquoi passer par les banques. J'espère qu'on en parlera. Voilà. Autre chose importante, à partir de ce moment-là, droit d'intervention des salariés une fois que leur projet est financé, possibilité de le présenter aux actionnaires qui décident oui, on y va ou pas. Les actionnaires, après tout, pourraient dire oui. Et s'ils disent non, alors possibilité de préempter l'entreprise de façon expropriée et indemniser les actionnaires. J'ai bien dit indemniser les actionnaires, sachant que la valeur des entreprises ne valent plus grand-chose dans le nouveau contexte dans lequel on sera. On parle souvent de faire atteinte à la propriété. Il n'y a nullement atteinte à la propriété. En réalité, la valorisation des entreprises... Bon, écoutez, excusez-moi, c'est pas très fort. Non, c'est... Non. Je vais me mettre en mode avion, j'aurais dû le faire. Excusez-moi. Oui, donc nous en étions à ceci. Droit d'intervention, donc expropriation des actionnaires à ce moment-là et indemnisation à une valeur qui sera largement faible puisque, comme je vous l'ai expliqué, la valorisation des entreprises aura été largement amoindrie du fait des faibles perspectives de dividendes qui existeront. Et enfin, le dernier élément, qui est une péréquation de la richesse produite et disponible, pour faire vite, une valeur ajoutée, peut-être. La question posée est la suivante, c'est la question qu'on nous pose dans beaucoup de petites entreprises lorsqu'on parle de monter la part des salaires dans la valeur ajoutée, augmenter le SMIC, ce genre de choses, et les petites entreprises nous disent « Ah, mais attendez, vous êtes gentils, mais comment on va faire ? Moi, j'ai déjà du mal à payer et assurer les SMIC, car si demain le SMIC il est réévalué avec des cotisations, il n'y a plus d'exonération. » J'ai interviewé le directeur de la SCOP Fontanille qu'on a cité tout à l'heure, qui est dans les dentelles élastiques, hein, comme je disais, lui m'a tenu ce discours absolument incroyable, qui était de dire « Ah ben on est content, la première année on a dégagé un excédent ». Donc ils sont dans un contexte textile extrêmement difficile, il faut se battre, il faut le comprendre. Nous, la première année, on était très contents parce qu'on avait des exonérations de cotisations au titre de la création d'entreprise. Mais la deuxième année, ouais, on est tout juste à l'équilibre. Et nous espérons que le gouvernement Hollande respectera ses promesses de baisse des charges. Voilà. Parler de charges. Et oui, dans une SCOP, une cotisation peut être vue comme une charge. C'est absurde. C'est pas une question absurde. Alors, je crois qu'on ne peut pas se dérober à cette question. C'est pas possible. On ne peut pas. On doit avoir une réponse. Aujourd'hui, les seules réponses que les libéraux ils ont apportées, c'est une réponse dans laquelle on fait des exonérations de cotisations sur les bas salaires. Terrible comme solution. Terrible parce qu'il y a des effets d'aubaine pour des entreprises qui peuvent payer. Terrible parce que ça crée des trappes à bas salaires, hein, très très clairement. Voilà. Et terrible parce que, bah, franchement, est-ce sérieux au moment où on nous parle de déficit budgétaire dans lequel les régimes sociaux font partie du déficit budgétaire ? Franchement, est-ce que c'est sérieux ? C'est quand même assez incroyable. Or, quelle est la solution que je préconise dans le livre ? C'est tout simplement d'aller vers les entreprises riches pour transférer de la richesse des entreprises riches vers les entreprises les plus faibles en termes de valeur ajoutée en opérant une péréquation. Donc le principe, c'est d'extraire une partie de la valeur ajoutée, la richesse produite par les entreprises dans une caisse commune qui sera redistribuée en fonction du nombre de personnes dans l'entreprise en équivalent temps plein, de façon à commencer à déconnecter une partie de la rémunération du comportement marginal. marchand de l'unité de production. Et c'est comme ça, je vois, je dirais, une vision, enfin, c'est un petit peu une façon de commencer à envisager une démarchandisation progressive de notre société et une déconnexion, en tout cas, de notre revenu du comportement économique de l'unité de production. Voilà, j'en ai fini de cet exposé. J'ai été un petit peu plus long que prévu. J'espère qu'on peut démarrer maintenant le débat. Voilà.